Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Éducation en question. Et aujourd'hui, je reçois Madame Boyer, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Rennes, plus précisément à l'INSA. Alors, INSA, ça veut dire quoi ?
INSA, c'est Institut National des Sciences Appliquées. C'est une grande école d'ingénieurs qui forme donc des ingénieurs à partir du bac.
Voilà. Donc, nous allons parler de ces formations, puisque, de fait, quand on parle d'école d'ingénieurs, il y en a des quantités. Mais l'INSA a cette particularité d'être une école d'État.
Donc, l'INSA est une école publique, mais l'intérêt des écoles publiques est tout d'abord pour les gens qui doivent payer les études, puisque les tarifs d'inscription sont pratiquement ceux pratiqués par les universités. Donc, des tarifs beaucoup plus réduits que des écoles privées. On est à l'ordre de 600 ou 700 euros par an pour les frais d'inscription, ce qui est très petit comparé à certaines écoles privées.
Voilà. Alors, vous êtes à l'INSA de Rennes. Il y a d'autres INSA en France ?
Il y a 6 INSA en France. Il y en a une à Lyon qui est la plus connue et la plus ancienne. Et puis, il y en a aussi à Toulouse, Rouen, Strasbourg. Et un nouvel INSA à cheval sur Bourges et Blois qui s'appelle Centre Val-de-Loire.
J'imagine que dans ces INSA, on a des enseignements communs, mais on a aussi des enseignements très diversifiés, que l'ensemble couvre à peu près tous les domaines. Comment ça se passe ?
Alors à l'INSA, on rentre et on a en fait 2 ans, donc les 2 premières années après le bac, sont des années dites de tronc commun. Alors à Rennes, ça s'appelle sciences et techniques pour l'ingénieur. En fait, c'est un tronc commun scientifique utile pour toutes les études d'ingénieur qui seront menées plus tard. Et ensuite, à partir de la 3e année, on choisit un département dit de spécialité. Et donc, il y a des spécialités qui couvrent tous les domaines de l'ingénierie sur toutes les INSA. Donc, ça va de la biochimie, du génie civil, de la mécanique, de l'informatique, de l'électronique. Toutes les spécialités ne sont pas représentées à Rennes, mais sur le réseau INSA, on peut pratiquement trouver tout ce qu'on veut au niveau ingénieur.
Quelle est la relation entre les INSA et les classes préparatoires aux grandes écoles, puisque vous évoquiez les 2 années préparatoires? Est-ce que cela veut dire que, en fait, c'est un peu une classe prépa intégrée ? Comment ça se passe ?
Alors, effectivement, on utilise parfois le nom de prépa intégrée, c'est-à-dire que nos étudiants ne sont pas obligés de passer par une classe prépa, contrairement aux écoles d'ingénieurs classiques dans lesquelles on rentre après la 2e année de prépa. Donc, chez nous, la prépa est faite sur place à l'INSA. Et il n'y a pas de concours d'entrée, mais pour rentrer à l'INSA, il ne suffit pas d'avoir le bac, il faut aussi être accepté.
Alors, il faut donc avoir le bac, certes, mais être accepté, ça veut dire qu'en fait, il y a une sélection qui se fait sur dossier.
Donc, il y a une sélection sur dossier, et puis certains étudiants dont les dossiers nous paraissent bons sont invités à passer un entretien. Un entretien avec un enseignant, un psychologue et un ingénieur. Et cet entretien permet aussi de tester un peu les qualités différentes des qualités scolaires, qui sont le travail en groupe, l'ouverture au monde, etc.
Pour chaque étudiant, cet entretien et cette...
Alors non, cet entretien est fait pour... Les très bons étudiants ne passent pas l'entretien. Les bons étudiants passent l'entretien pour... en fait, il y a 2 listes. Il y a une liste des admis d'office et puis il y a une liste des admissibles qui passent un entretien et qui seront, une partie sera admise et l'autre partie sera refusée.
Lorsque des étudiants se présentent à cet entretien ou pour ces formations, est-ce que, par exemple, vous accueillez à Rennes, mais que ensuite ils peuvent aller à Lyon ou à Strasbourg, et de la même manière, ceux de Lyon ou de Strasbourg peuvent venir chez vous? Est-ce qu'il y a, au niveau de ces années préparatoires, la possibilité de passer d'une des INSA à l'autre?
Alors, la possibilité existe. Maintenant, elle est très peu utilisée. C'est beaucoup plus simple pour un étudiant, s'il a déjà une idée de la spécialité qui l'intéresse, d'entrer dans un INSA qui prépare la spécialité qui l'intéresse. Il y a des passerelles il faut avoir de bons arguments pour les utiliser. Donc c'est beaucoup mieux de choisir déjà, juste après le bac, ce qu'on veut faire. Ou au moins l'INSA qui est susceptible de nous intéresser.
Bon, donc l'INSA est une école d'ingénieurs, je résume, qui est accessible sans passer par des classes préparatoires. Néanmoins, c'est une école de haut niveau, puisqu'il y a une sélection qui se fait sur dossier.
C'est ça.
Il y a combien d'années d'études ?
Il y a 5 ans d'études, donc 2 ans de prépa intégrée et 3 ans de spécialité, comme pour tous les diplômes d'ingénieur en France.
Et au niveau international, souvent, dans les écoles d'ingénieurs, il y a des échanges. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique aussi dans les INSA ?
Alors, l'ouverture à l'international est très demandée pour tous les ingénieurs. Donc oui, à l'INSA, il y a une très forte incitation à aller faire une partie de ses études à l'étranger. Tous les étudiants doivent au moins avoir effectué 2 mois à l'étranger, soit de stage, soit une partie des études. C'est-à-dire, par exemple, un semestre dans une école ou dans une université partenaire de l'INSA.
Voilà, donc il y a des universités partenaires dans beaucoup de pays ?
Oui, il y a 45 pays sur toutes les spécialités. Sur la spécialité pour laquelle j'enseigne, sciences et génie des matériaux à Rennes, on a à peu près 12 partenariats avec des pays différents, en Europe, mais aussi en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est.
Donc ça veut dire que les étudiants peuvent aller se balader aussi dans ces pays et que vous recevez peut-être des étudiants de ces pays.
Alors oui, actuellement nous avons 2 Mexicains, 2 Brésiliens, 1 Italienne en formation chez nous à Rennes cette année. Et tous les ans, nous envoyons à peu près 30 à 40 étudiants ailleurs en Europe et en Amérique.
Est-ce que les étudiants qui viennent dans ce type d'école se rendent compte de la chance qu'ils ont d'intégrer une école pareille ?
Oh ben, les étudiants, une fois qu'ils y sont très bien. En général, ils apprécient leur environnement. Après, la chance qu'ils ont, je pense que... Oui, ils s'en rendent compte, mais en même temps, ils ne connaissent pas les autres filières d'études. Donc, ils savent que c'est sélectif. Une fois qu'ils y sont, bien et ils en profitent.
Oui. Vous évoquiez tout à l'heure le coût des études, qui était à peu près analogue à celui d'une université. Mais en plus, je crois que l'école offre un internat. C'est un peu un grand mot, mais des services d'hôtellerie et de restauration qui sont compris dans la scolarité.
Oui, alors la force de nos écoles, effectivement, c'est qu'il y a une vie de campus, c'est-à-dire qu'il y a un campus. Un campus, ça veut dire des résidences étudiantes, un restaurant universitaire, mais qui propose aussi le dîner et le petit déjeuner. Donc pratiquement un hébergement complet pour au moins jusqu'à la 4e année. Et puis une vie associative très riche au niveau du campus. Alors les associations sont complètement gérées par les étudiants pour eux, mais l'école soutient financièrement et aussi en aménageant les emplois du temps correctement, toute la vie associative qui a lieu sur le campus.
Donc il y a une vie associative très riche et puis cet hébergement donc facilité. Et il n'y a pas d'INSA à Paris, c'est exprès ?
Alors à Paris, il y a énormément de formations diverses et variées. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui forment à partir de la prépa, donc à partir de Bac plus 2. Mais les écoles post-bac, je crois pas qu'il y en ait à Paris. Alors, en région parisienne, il y a, pas très loin de la région parisienne, il y a l'Université de technologie de Compiègne, qui a à peu près le même fonctionnement que l'INSA. Mais dans Paris même, ou en Ile-de-France, je ne connais pas les formations de ce type.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale. Thank you. toujours avec Madame Voyer à propos de l'INSA de Rennes. Nous avons évoqué tout à l'heure un certain nombre de généralités, mais plus précisément comment les choses se passent à l'INSA et, par exemple, quelle est la journée d'un étudiant ?
La journée d'un étudiant est assez classique. Souvent, il y a des cours à partir de 8h et jusqu'à 5h30. Pas tous les jours. Il y a notamment le jeudi après-midi qui est réservé aux activités sportives. Et puis, ça dépend des semaines. C'est pas un emploi du temps aussi régulier qu'au lycée. C'est-à-dire qu'il y a des matières qui sont vues, par exemple, en septembre-octobre. Et puis, il y a l'examen en novembre. Et après, on reverra cette matière l'année d'après. Donc, c'est pas du tout physique toute l'année et maths toute l'année au même horaire. Il y a des modules qui sont réduits sur 2 mois ou 4 mois. Et il y a un ou deux examens qui permettent de sanctionner la réussite ou non de ces modules.
Oui, un module, ça veut dire un ensemble de cours et d'études sur un thème donné.
Oui, alors un module, c'est un ensemble de cours. Des cours, ça veut dire des enseignements donnés en amphithéâtre avec une centaine de personnes autour de soi. Et puis, il y a des travaux dirigés qui sont des exercices effectués en petits groupes. Et puis des travaux pratiques. Donc les travaux pratiques sont aussi effectués en petits groupes dans des salles dédiées avec du matériel adapté et 2 enseignants par groupe de 24 étudiants. Donc les travaux pratiques permettent de mieux comprendre ce qui est vu en cours parce que parfois avec 120 personnes autour de soi, on n'a pas forcément envie de poser une question si quelque chose nous échappe.
Donc il y a quelque chose qui ressemble à un tutorat.
Alors,
pour les élèves, pour les étudiants.
Les étudiants peuvent avoir effectivement un tutorat. C'est une proposition qui est faite pour les étudiants qu'on détecte en difficulté dès le mois de novembre. On peut leur proposer, en fait, il y a des enseignants ont accepté de rencontrer ces étudiants pour discuter des méthodes de travail et de pas leur faire des cours particuliers, mais les remettre en confiance un peu. Donc il y a cet aspect des choses, mais il y a quand même beaucoup d'autonomie. Les étudiants sont beaucoup moins encadrés qu'au lycée.
Et puis j'imagine que cela doit être varié suivant les niveaux, entre l'étudiant de première ou de deuxième année et puis l'étudiant en fin de parcours, c'est très différent vraisemblablement.
Alors là, le système de tutorat dont je viens de parler, c'est en première et deuxième année. En fin de parcours, en fait, les étudiants vont dans des départements de spécialité et là, ils sont 48, 50, voire 60 dans certaines spécialités. Mais finalement, la promotion est beaucoup plus réduite, donc les enseignants sont plus proches des étudiants et les étudiants peuvent accéder aux enseignants beaucoup plus facilement à partir de la troisième année.
Comment ça se passe pour les étudiants qui viennent de l'étranger ? Puisque vous avez évoqué l'ouverture à l'international de l'INSA de Rennes, comme des autres INSA d'ailleurs. Comment ça se passe précisément dans cette INSA-là ?
Il y a une responsable des ressources internationales par département, donc qui est l'interlocutrice privilégiée entre l'université à l'étranger et puis l'INSA. Qui reçoit d'abord les contacts par mail, puis ensuite qui reçoit les étudiants, qui élabore avec eux un emploi du temps, parce que les étudiants qui viennent de l'étranger ne vont pas suivre une année complète de notre enseignement, ils vont suivre des modules qu'ils ne suivraient pas chez eux, ou bien qui correspondent un peu plus à la formation qu'ils auraient là-bas. Et puis, comme il y a la barrière de la langue, on leur demande un peu moins de réussite que les étudiants francophones. Donc, ils ont à peu près 2/3 de cursus à faire, alors que les étudiants font un cursus complet. Les étudiants français font un cursus complet. Et puis, ils vivent complètement sur le campus, ils essayent de s'investir aussi dans les associations, enfin, ils sont vraiment intégrés dans la vie étudiante de l'INSA.
Et à l'inverse, pour les étudiants français qui vont dans les départements étrangers, ils choisissent les pays, comment les choses se font, hein, en fonction de leur propre cursus, en fonction de ce qui existe dans les universités extérieures, j'imagine ?
Alors en fait, dans chaque département, il y a des accords avec des universités. C'est-à-dire que nous avons déjà sélectionné des universités qui correspondent à la formation que l'on donne à l'INSA. Donc nos étudiants, par exemple, en sciences et génie des matériaux, ils vont dans 6 ou 7 destinations déjà pour lesquelles il y a des accords avec notre département précis. Et donc là, suivant les pays, il y a des accords différents. Donc en Europe, il y a un système de crédit européen, c'est facile. Les crédits acquis dans n'importe quel pays d'Europe sont comptabilisés directement pour notre formation. Pour ce qui concerne l'Amérique ou l'Asie du Sud-Est, on essaye de trouver des équivalences suivant la difficulté du cursus, ce genre de choses. Et aussi, nos étudiants ont un aménagement, c'est-à-dire qu'on n'exige pas d'eux à l'étranger la même chose que ce qu'on exigerait en France à cause de la barrière de la langue et puis du fait d'être à l'étranger qui peut pénaliser un petit peu la réussite scolaire.
Oui, donc en fait, ce qui se faisait pour les étudiants étrangers en France se fait pour vos étudiants étrangers à l'extérieur.
Oui, c'est une relation complètement équilibrée. Il n'y a pas du tout, un privilège de nos étudiants ou des étudiants étrangers. C'est vraiment, c'est des accords d'échange entre universités qui sont donnant-donnant pour les deux universités partenaires.
Est-ce qu'il y a aussi des échanges d'enseignants entre ces universités partenaires? Ou est-ce que vous avez établi un cursus spécifique en amont? Comment les choses se passent?
Alors non, il y a des enseignants qui vont à l'étranger rencontrer pour préparer un accord entre universités. Il y a des enseignants qui vont rencontrer les enseignants à l'étranger, mais il n'y a pas d'échange aussi long pour les étudiants, ne serait-ce que parce que pour déplacer quelqu'un plus d'un mois, ça devient assez compliqué. Mais il y a effectivement, les enseignants rencontrent les gens à l'étranger, soit par téléphone, soit directement.
À l'INSAE, ces enseignants sont aussi des enseignants-chercheurs. Donc comment les étudiants profitent, si j'ose dire, de ce travail de recherche qui se fait? Et est-ce qu'ils en profitent ou bien est-ce que, en fait, c'est séparé?
Alors, en premier cycle, c'est complètement séparé. Les étudiants, ils voient des gens en face d'eux, ils imaginent que ce sont des enseignants comme au lycée. En second cycle, souvent, les enseignements que l'on donne sont un petit peu colorés par la recherche que l'on fait. Donc, s'il y a des dégressions, les étudiants nous posent très facilement des questions pour aller plus loin sur notre recherche. Et notamment, ils sont très heureux si on les invite à venir visiter notre laboratoire. Pour ce qui nous concerne, en quatrième année, ils passent 3 jours dans nos locaux du laboratoire. Alors, c'est pas pour visiter, c'est pour faire un travail pratique sur des objets que l'on fabrique en recherche. Donc, il y a une interaction parce qu'on n'arrive pas... Nous, enseignants, on cloisonne pas mal, mais les étudiants sont toujours intéressés et même certains demandent à venir faire des stages chez nous pour découvrir la recherche, en troisième année notamment.
INSA, ça veut dire aussi sciences appliquées. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a, à ce titre, des partenariats avec les industriels? Et est-ce que, de ce fait, il y a aussi, pour les étudiants et pour leur cursus, une ouverture vers l'industrie ou vers des domaines d'application, soit d'autres laboratoires, en tout cas, du domaine hors scolaire?
Alors, oui, il y a des partenariats avec les industriels. Il y a certains cours qui sont donnés par des industriels, des cours assez spécifiques, notamment sur le risque dans l'industrie ou des cours franchement sur un domaine industriel, par exemple la microélectronique, comment ça se présente dans une entreprise. C'est un ingénieur d'une entreprise de microélectronique qui vient faire le cours. Sinon, il y a aussi des conférences. Donc il y a une conférence hebdomadaire faite par un industriel pour présenter son cursus, comment ça se passe, sa vie en entreprise, enfin pour intéresser les étudiants et pour qu'ils sachent un peu à quoi s'attendre. Et sinon, il y a aussi une formation pour... Il y a un module qui s'appelle Projet professionnel individualisé qui permet à l'étudiant de construire peu à peu son projet professionnel. Et donc, à l'occasion de ce module, les étudiants sont invités à rencontrer des directeurs de ressources humaines qui leur apprennent à faire un CV, une lettre de motivation, et aussi faire une simulation d'entretien pour rentrer dans une entreprise. Donc c'est vraiment fait par des personnels de ressources humaines réels.
Ça veut dire qu'en fait, il y a aussi une préparation à l'emploi dans cette formation. En troisième et quatrième année, ou peut-être en dernière année, il y a cette ouverture directe vers l'emploi. Il y a des étudiants qui, finalement, entrent directement dans des entreprises.
Alors, actuellement, il y a l'entrée directe. Alors, déjà, il y a une préparation effective vers l'emploi, ne serait-ce que par les stages. Il y a deux stages très importants. Donc, un stage en quatrième année qui peut être ouvert sur la recherche ou bien à l'étranger. Mais surtout, le stage de cinquième année qui dure 6 mois est obligatoirement un stage en entreprise.
Ah oui, 6 mois.
6 mois de stage en entreprise de janvier à juillet-août de la dernière année d'école. Donc là, oui, il y a certains étudiants qui peuvent être directement embauchés à la sortie du stage. Bon, alors, la crise aidant, c'est de moins en moins vrai, mais nos étudiants sortis de l'école et du stage ont quand même largement un pied dans l'entreprise et le taux d'embauche est supérieur à 80% à 6 mois. Donc il y a un passeport vers l'emploi très efficace quand même.
Lorsque vous évoquez ce stage de 6 mois, c'est effectivement très long. Est-ce que les enseignants vont voir les étudiants ou comment ça se passe, la relation entre l'entreprise et l'école?
Alors oui, certains enseignants vont voir les étudiants, pas tous. Souvent, il y a beaucoup de relations par téléphone ou par email parce que nos étudiants peuvent aller en stage assez loin en France ou même à l'étranger. Donc ceux qui sont à proximité, on va les visiter. Les autres, on essaye de savoir comment ça se passe en contactant leur tuteur dans l'entreprise ou bien l'étudiant lui-même. Et puis surtout, à la fin du stage, il y a une soutenance où là, les industriels sont invités à venir avec l'étudiant pour assister à la soutenance et puis pour discuter avec nous. Et souvent, ces industriels qui ont accepté de recevoir en stage un de nos étudiants sont ensuite invités, s'ils le souhaitent, à venir donner une conférence quelques années plus tard pour parler de leur entreprise. Et donc on crée un peu un vivier d'entreprises partenaires qui est de plus en plus étoffé pour permettre à nos étudiants de trouver des emplois plus facilement.
Bien, nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Éducation en question à propos de l'INSA de Rennes avec Madame Boyer. On évoquait antérieurement le travail qui se fait entre l'entreprise et l'université et les stages. Est-ce que l'entreprise intervient pour le financement de l'université?
L'entreprise intervient pour le financement du temps. Il y avait la taxe d'apprentissage, il y avait pas mal de taxes d'apprentissage qui rentraient chez nous, par le biais des étudiants parfois qui allaient démarcher des entreprises. Mais le financement, bien sûr, comme c'est une école publique, c'est un financement de l'État essentiellement. Par contre, les entreprises interviennent dans les conseils, notamment dans le conseil d'administration, et puis même dans les conseils de département où on définit la formation, il y a une ou deux personnes qui représentent les entreprises partenaires qui ont voix pour définir la formation. Donc les entreprises sont présentes un peu par les finances et aussi par les personnes.
Est-ce que c'est positif par rapport à la recherche? Parce que finalement la recherche fondamentale permet quand même peut-être après d'aller dans tous les domaines.
Alors pour nous, on essaye de ne pas former des chercheurs. On forme des ingénieurs qui peuvent après s'orienter dans la recherche. Mais on essaye de former des étudiants qui sont directement employables. Et pour nous, pour notre laboratoire de recherche, c'est intéressant d'avoir des liens avec les entreprises. Oui, parce que on sait ce qui se fait, on sait ce qui les intéresse et on peut voir si nos recherches peuvent être directement applicatives ou pas. Les laboratoires de l'INSA sont souvent des laboratoires de recherche appliquée, pas directement des laboratoires de recherche fondamentale comme il peut y avoir dans les universités classiques.
Parmi les dernières questions que je voudrais vous poser, la place des filles dans cette formation, je n'imagine pas qu'il puisse y avoir des quotas, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a d'abord?
Alors oui, il y a des filles qui font des formations d'ingénieurs, heureusement. On est à peu près à 20-25% actuellement, mais c'est la statistique qu'on retrouve dans toutes les formations scientifiques, sauf la biologie où il y a une surreprésentation des filles. Donc dans tout ce qui est le cursus d'ingénieur, physique, bâtiments, électroniques, on est à 20-25%. Et c'est la statistique habituelle. Maintenant, on essaye de proposer notre formation scientifique aux filles, notamment par une journée femmes et sciences, où des lycéennes viennent de toute la région de Rennes rencontrer des femmes qui sont devenues ingénieures ou qui sont devenues chercheurs pour savoir que les filles et les sciences, c'est compatible. On ne fait pas du tout de quotas, mais l'information, c'est important pour que des filles se disent pourquoi pas moi.
Est-ce que vous avez l'impression, par rapport à ce qui se faisait, qu'il y a maintenant plus de filles dans le domaine scientifique?
Moi, j'ai pas assez de recul pour savoir s'il y a plus de filles. Il y a des filles, mais pour l'instant, elles sont quand même minoritaires. Est-ce qu'il y en a plus? Là, je peux pas vous dire. Sur 20 ans, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément plus de filles. Mais les filles sont là. Et là où il y a de la mixité, c'est quand même beaucoup plus riche.
Et est-ce qu'elles trouvent du travail? Est-ce qu'il y a du travail pour elles ou est-ce qu'elles sont celles qui ont finalement le moins de perspectives professionnelles?
Ah non, au point de vue perspective professionnelle, c'est équivalent aux garçons. Pour rentrer dans le monde professionnel, elles n'ont pas plus de difficultés que les garçons. Peut-être, la difficulté professionnelle en général vient après qu'on ait trouvé du travail, lorsqu'on commence une vie de famille, où la progression est moins rapide. Mais pour rentrer dans le monde du travail, aucun problème pour les filles, ça marche très bien.
Enfin, une dernière question. Vous évoquiez tout l'aspect social et d'ouverture de l'école par des activités multiples. On peut peut-être en parler?
Oui, alors comme activités multiples, alors il y a beaucoup de choses qui sont organisées par les étudiants, des activités sportives, des activités culturelles pour les étudiants eux-mêmes, et puis aussi quelques activités d'ouverture à l'autre. Donc il y a des organisations de festivals très importants à l'INSA de Rennes qui s'appelle le Rock and Solex, donc un festival de musique et de course de Solex qui a lieu tous les ans au mois de mai, je crois, le week-end de l'Ascension. Et puis sinon, il y a aussi des associations étudiantes qui sont plus portées sur la solidarité internationale en partenariat avec certains pays, des étudiants qui viennent rencontrer d'autres jeunes dans des pays africains qui viennent. Alors, c'est plus de la construction de puits, c'est beaucoup plus de la rencontre, mais c'est aussi très riche.
Eh bien, merci de nous avoir ouvert à ce monde de l'INSA. Et aux auditeurs, je dis à la semaine prochaine.